Le Seigneur est bon, il est merveilleux et il y a une cohérence dans les interventions ce matin, dans la parole que le Seigneur veut nous donner. Et donc c'est à prendre très au sérieux, n'est-ce pas, quand il y a une cohérence particulièrement. Parce que on ne se concerte pas, le Seigneur est à l'œuvre et il dirige dans la manière, dans la direction qu'il veut. C'est aussi en cohérence avec mardi soir. Si vous n'avez pas pu assister à l'étude biblique, eh bien vous pouvez la réécouter sur Ésaïe 66. Il y avait des choses, j'avais déjà commencé à préparer, donc je n'ai pas triché là-dessus, n'est-ce pas, Michael? C'était déjà dans mon cœur de parler sur certains points. J'aimerais juste parler, le titre du message, c'est que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Faites FAITE, pas FE, accent circonflexe TE, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien que la volonté de Dieu, ce soit la fête. La prospérité, la guérison, la bénédiction, les choses en abondance. Et là, ils aiment le Seigneur si c'est comme ça. Et quand les épreuves sont là, ils sont très découragés, ils ne comprennent pas pourquoi leur modèle n'est pas concrétisé, n'est pas réalisé. Et j'aimerais donc, vous savez que ça se trouve, que ta volonté soit faite, c'est dans le Notre Père, évidemment. Vous savez où se trouve le Notre Père, j'espère. Si vous devez le chercher en vitesse, enfin, normalement, on l'apprend par cœur. Il se trouve, bien sûr, dans le Sermon sur la montagne, et le Sermon sur la montagne se lit en une seule fois. Il se lit pas un jour le chapitre 5 de Matthieu, le lendemain le chapitre 6 et le surlendemain le chapitre 7. Il se lit 5, 6, 7 ensemble. Ça va ensemble. C'est un package, d'accord? Ça va vraiment ensemble, on ne peut pas séparer. Et c'est donc dans le chapitre 6 du Sermon sur la montagne où Jésus enseigne à prier. Et sa prière est extrêmement simple, extrêmement simple. Elle contraste probablement avec les paroles des pharisiens, les choses que les pharisiens pouvaient prononcer, pouvaient dire. Ça contraste beaucoup parce que là, il y a une énorme simplicité, mais il y a une énorme profondeur. Je crois qu'il faudrait des semaines de prédication sur le Notre Père parce qu'il y a tellement de simplicité, mais tellement de profondeur dedans. Et quand il dit que ta volonté soit faite, c'est dans un contexte, c'est le contexte du chapitre 6 qu'on verra. Ça va ensemble aussi, d'accord? Tout est cohérent avec le Saint-Esprit. Une chose qui est merveilleuse quand on rencontre le Saint-Esprit de Dieu, quand on rencontre l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, eh bien, il ouvre l'intelligence. C'est pour ça que le monde et les persécuteurs appellent ça de l'obscurantisme. Parce que pour eux, la lumière, c'est les ténèbres. Et les ténèbres, c'est la lumière. Donc ils disent que nous sommes dans l'obscurantisme et qu'eux sont dans la lumière. Mais il y a une intelligence avec Dieu, n'est-ce pas? Il y a une cohérence, une logique extraordinaire. Donc c'est merveilleux. Et donc avec le chapitre 6, que ta volonté soit faite vient très bien placé dans le chapitre 6, dans le contexte du chapitre 6. Mais j'aimerais le situer par rapport à une parole qu'a dite Thomas, un des disciples de Jésus, que les gens aiment bien citer parce qu'ils disent « je suis comme Saint Thomas ». Ils disent Saint Thomas, comme ça ils disent il y a au moins un saint qui me ressemble, ou je ressemble au moins à un saint. Mais en fait, malheureusement pour eux, Thomas n'était pas celui qui croyait, ce n'était pas un homme qui juste croyait en ce qu'il voyait, n'est-ce pas? Il avait rencontré Jésus et il était interpellé par Jésus, il était touché par la communion avec Jésus. Il parlait assez facilement, je pense que c'est ça. Et dans Jean chapitre 14, c'est un chapitre sur le Saint-Esprit, l'annonce du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, Jésus lui dit, je vais aller vers mon Père, ou vous savez où je vais. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Parce que Jésus leur a dit, vous en connaissez le chemin. Nous ne savons pas où tu vas. Donc nous ne pouvons pas connaître le chemin. Et là, il y a un problème qui est soulevé par Thomas, qui est notre problème souvent. c'est que nous voulons connaître la volonté de Dieu pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Ça paraît choquant ce que je dis, mais c'est un problème. Montre-moi ta volonté pour que je la fasse. Le problème, c'est que c'est moi qui fais la volonté de Dieu. Or, je crois que l'Évangile dit « Montre-nous plutôt que ta volonté soit faite », c'est-à-dire que la volonté de Dieu soit accomplie par Dieu dans nos vies, pas par nous. Vous voyez la différence? Si je connais la volonté de Dieu, je vais essayer d'atteindre cette volonté. Je vais essayer de faire par moi-même cette volonté. Mais ce n'est pas ça le message de la prière « Que ta volonté soit faite ». Le sens de cette prière, c'est « Je veux réaliser ma volonté, Dieu qui parle. Je veux réaliser ma volonté dans ta vie. Ce n'est pas toi qui réalises ma volonté, c'est moi qui réalise ma volonté dans ta vie. Parce que si c'est vous qui réalisez la volonté de Dieu, ou qui avancez vers la volonté de Dieu, eh bien c'est votre volonté qui domine. J'ai la volonté de faire ta volonté. Et c'est le drame, parce que c'est comme ça souvent. Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Montre-moi quelle place j'ai dans l'Église. Montre-moi ce que je dois faire et je le ferai. Mais ce n'est pas ça. Le Seigneur ne montre que très rarement sa volonté. Il est souverain, il fait comme il veut. Ce qu'il veut, c'est que l'on marche de manière à ce qu'il puisse accomplir sa volonté dans nos vies. Et comme ça, sa volonté est faite. La volonté du Seigneur, c'est que sa volonté se réalise dans nos vies et que nous n'ayons pas le contrôle, que nous n'ayons pas le pouvoir de pouvoir faire sa volonté ou de vouloir faire sa volonté. Donc je trouve cette intervention de Thomas extrêmement importante parce qu'il montre le défaut qui est chez nous, n'est-ce pas ? Montre-nous où tu vas, comme ça on peut en savoir le chemin. Et montre-nous ce que tu veux, et comme ça on va pouvoir le faire. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à vivre sans volonté, sans chercher leur propre volonté ou sans chercher à ce que leur volonté accomplisse la volonté de Dieu. Il veut des hommes et des femmes qui soient prêts à obéir et à marcher sur le chemin. Jésus a dit juste après ça, il a dit « Je suis le chemin ». C'est-à-dire que si dans nos vies, ce n'est pas Jésus qui est le chemin qui nous conduit vers le Père, eh bien, on est dans l'erreur, on est dans l'égarement. On est en train d'accomplir ce qu'on croit être la volonté de Dieu alors qu'on est tout à fait à côté. On est dans l'idolâtrie. Le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, quitte ta patrie, la maison de ton père, ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit, je te montrerai le pays vers lequel tu vas, et quitte ta patrie, ta maison de ton père, pour aller là. Il a dit, quitte, et je te montrerai où tu dois. Je te montrerai le chemin, je te révélerai le chemin. Est-ce que c'est ça qu'on veut ce matin? Et c'est le premier point. C'est ce qu'on est prêt à quitter sa patrie, la maison de son père. Je ne parle pas physiquement, parce qu'il y a tellement de gens qui prennent les choses au premier degré, qui disent, voilà, ça veut dire qu'on doit quitter chez soi, ou on doit quitter la ville où on est né. Mais si nous, tout le monde fait ça, il n'y a plus personne qui reste dans la ville où on est né. Le Seigneur peut nous appeler là, mais ici, il est en train de parler d'un attachement spirituel. Est-ce que tu es prêt à quitter ta patrie? C'est le pays dans lequel tu es né, la tradition, les traditions, ta culture, tes habitudes, ton éducation. Est-ce que ce matin tu es prêt? Pas parce que le Seigneur t'a montré que voilà comment je veux que tu réagisses dans certaines situations, voilà comment je veux que tu te comportes, voilà comment je veux que tu crois. Mais juste parce que je te dis de quitter ton pays, ta patrie, alors est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt ce matin à te lever et à dire, Seigneur, je veux renoncer à ma culture, mes habitudes, mes traditions, mon éducation. Peut-être vous allez me dire, mais votre éducation était très bonne. Pour moi qui étais fils de pasteur, j'ai été enseigné avant ma naissance dans le bon chemin, n'est-ce pas? Mais je vous assure qu'on a besoin de repentance. Je peux vous assurer que j'ai dû passer par la repentance quand j'étais adolescent, couvert de péché. Pas besoin d'être élevé avec une mauvaise éducation pour être couvert de péché. Quand le Saint-Esprit a mis le doigt sur ma situation et ma vie, j'ai pris conscience de mon péché, de ma misère. On a besoin d'être délivré de notre bonne éducation. On a le besoin d'être délivré de toutes nos habitudes qui sont bonnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus le faire, mais on ne doit plus le faire par nous-mêmes, par notre éducation, par notre culture. On doit le faire parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il y a besoin de pouvoir dire, Seigneur, je me lève, je ne sais pas où tu veux que j'aille. Je ne sais pas du tout ce que tu veux de moi, mais je me lève par la foi parce que tu as dit de quitter la patrie. Quitte la maison de ton père ou de ta mère. Tu as besoin de pouvoir obéir à ça. Pas pour que Dieu te montre, mais je veux que tu ailles là, à cet endroit-là. Dieu ne te montrera probablement pas où tu devras aller. Il te dira juste, lève-toi et va, là où je te montrerai. Sinon, il n'y a pas de foi. Le problème de Thomas, quand il a dit, montre-nous, nous ne savons où tu vas, donc nous ne pouvons pas savoir le chemin, il voulait que Dieu lui montre quelque chose, que Jésus lui montre quelque chose de visible, de concret. Comme ça, il pouvait retracer un lien entre lui et cet endroit-là. Un lien, c'est ce qui relie, c'est une religion. Religare, c'est l'origine latine du mot religion. Montre-moi là où je dois aller, et puis je ferai la route. Et Jésus lui a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Les hommes parlent de Dieu et tracent un chemin qui entre eux et Dieu en disant, voilà, il faut suivre ce chemin pour y arriver. Malheureusement, ils n'arrivent jamais à Dieu parce qu'on ne peut que aller à Dieu par Jésus-Christ. Et ce matin, est-ce qu'on est en train de répondre à Jésus en disant, Seigneur, je suis prêt à me lever pour quitter ma patrie et la maison de mon Père. Je suis prêt à quitter mes habitudes, mes réactions, ma personnalité, tout ce que j'ai accumulé au travers de ces années, je suis prêt à l'abandonner pour toi. Vous savez, au plus que vous avez accumulé des choses, de la culture, du contrôle de vos comportements, du contrôle de votre vie sociale, eh bien au plus que c'est difficile de l'abandonner. Mais le Seigneur demande ça ce matin, sans savoir où ça va vous mener, mais parce que c'est sa parole et parce que sa parole est sainte. Est-ce qu'on est prêt ce matin à le faire? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à tout ce qu'on a cru être bon? Vous savez, il y a des gens qui vivent, le Seigneur touche leur vie, et parce qu'ils obéissent à la foi, ils commencent à prier beaucoup chez eux, à méditer la parole de Dieu. Et ça, c'est le Seigneur qui intervient dans leur vie, qui fait une œuvre véritable. Et ensuite, ça devient une habitude. Et l'esprit est perdu. La coutume, le moment de lecture de la Bible, le moment de prière reste, mais l'esprit qui était le moteur a disparu. Parce que après un certain temps, les gens pensent, voilà, c'est parce que je suis comme ça C'est parce que je prie, n'est-ce pas? Quand on entend tellement de gens qui disent, ah, mais justement, j'ai prié pour toi, tu as eu une bénédiction, ben c'est normal, j'ai prié pour toi. Comme si c'était la prière qui faisait que Dieu exaucait. Si c'est la prière qui fait que Dieu exauce, alors on est dans l'idolâtrie si on croit ça. Parce que Dieu répond aux prières parce qu'il est Dieu, pas parce qu'on a prié. Il demande à ce qu'on prie. Mais ce n'est pas parce qu'on a prié que la personne est guérie. Ce n'est pas parce qu'on a prié que la personne est bénie ou que le Seigneur, que la personne a été aidée dans une situation particulière. C'est parce que Dieu a agi. Et c'est important, mais on est toujours en train de croire que c'est parce qu'on a fait quelque chose. C'est parce qu'on a construit quelque chose. C'est parce qu'on a choisi un chemin qui nous mène à Dieu, à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Alors est-ce qu'on est prêt à dire au Seigneur, je ne veux plus prier de la même façon? Je n'ai pas dit que je ne veux plus prier parce que c'est un ordre du Seigneur. Mais je ne veux plus prier de la même façon. Je veux que ma prière, ce soit Jésus. Et que je puisse avoir une rencontre avec le Saint-Esprit qui soit nouvelle, de sorte à ce que l'Esprit de Dieu agisse quand je prie, et que ce soit sa volonté qui se manifeste lorsque je prie, mais lorsque je suis aussi au travail, lorsque je suis dans des difficultés, lorsque je suis dans les épreuves, et quand je suis aussi dans les situations optimales, où il y a tout qui semble bien aller. Est-ce qu'on est prêt à ce que ce soit ça qui se réalise dans nos vies? Et pas notre volonté qui accepte que la volonté de Dieu soit faite. Quand Abraham a entendu la voix du Seigneur qui lui parlait, il a obéi. Il s'est levé et il est parti avec sa famille. Il ne savait pas où il allait. C'est extraordinaire ça. Je me lève, je prépare. Les voisins devaient dire, mais où vous allez, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on s'en va. Vous allez où? On ne sait pas. Pour quelqu'un qui était implanté, n'est-ce pas? Qui avait des richesses, qui avait des troupeaux, ça devait être extrêmement difficile. Mais Dieu a constamment demandé à Abraham de faire cela. Constamment. Il a dû renoncer à des choses qui étaient très difficiles pour lui. Mais il n'a pas commencé à négocier autant qu'on sache avec Dieu là-dessus. Il a obéi. Il a obéi aussi quand Dieu lui a demandé la chose la plus impossible, d'offrir son fils Isaac. Il a obéi. L'enfant a dit sur la route, mais l'enfant était extraordinaire. Parce qu'il y a tellement d'adolescents qui auraient dit, mais où est-ce qu'on va? Mais explique-moi, dis-moi d'abord où on va, et puis explique-moi tout, et je vais voir si je veux bien aller avec toi. L'enfant a suivi. Et c'est seulement en approchant du lieu du sacrifice que l'enfant a dit, mais nous n'avons pas l'animal pour le sacrifice. Mais il avait eu un père, il avait eu une mère qui vivait dans l'obéissance à Dieu, sans savoir, sans voir vers où ils allaient. Est-ce que Dieu est là où Dieu allait les conduire? Il avait vu son père et sa mère vivre comme ça. Et donc lui aussi avait cette même attitude. Mais il y a un moment où Abraham n'a pas obéi, ou n'a pas fonctionné de la même façon. Dieu ne lui a pas reproché. Dieu n'a pas été dur envers lui parce qu'il savait que c'était un homme de Dieu et que sa femme était une femme de Dieu qui marchait par la foi. Mais lorsque Dieu lui a promis d'être le père d'une multitude de nations, alors qu'il était âgé, il n'avait pas d'enfant, il a pensé, il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je sois le père d'un grand peuple. Or, ce n'est pas possible. Donc il faut que j'accomplisse sa volonté, il faut que je fasse ce que Dieu veut. Et donc, il est allé vers Agar, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et il a eu Ismaël. Et le Seigneur ne lui a pas reproché ça. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui était contraire à ce que Dieu voulait. Et Dieu n'avait pas besoin de ce coup de pouce pour faire sa volonté. Il savait qu'il allait donner Isaac, et c'est resté Isaac, celui, l'enfant de la promesse, l'enfant que Dieu avait prévu pour Sarah, qui est devenu le symbole de Jésus-Christ. Mais voilà l'obéissance d'Abraham dans toute sa vie, avait fait de lui un modèle, une référence. Même si ça a été dur pour lui à ce moment-là de faire confiance que le Seigneur pouvait réaliser ce qu'il promettait de manière parfaite. Va dans le pays que je te montrerai. Va sur le chemin qu'est Jésus-Christ et il te montrera le chemin. Je voudrais prendre juste, retenez ce verset qui se trouve dans Ésaïe chapitre 30, verset 21. C'est un très très beau verset. Ésaïe 30, verset 21. C'est une promesse de Dieu à son peuple. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche, vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Vous entendrez la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » C'est ça que le Seigneur veut, c'est comme ça qu'il veut conduire son peuple. Il ne veut pas un peuple qui sait où il va. Les gens viennent et disent « Quelle est la vision pour l'Église ?» Alors ce sont souvent des gens hyper spirituels qui disent ça. Hyper spirituel, le hyper est un peu péjoratif. Quelle est la vision que vous avez pour l'Église ? Si vous avez une vision de croissance pour l'Église, il est très vraisemblable que l'Église croisse. Parce que c'est l'objectif que vous avez, n'est-ce pas ? Comme dans une entreprise, on a un objectif de productivité. Mais la question n'est pas celle-là. La question est, Seigneur, nous sommes là pour te servir. Nous sommes là pour obéir, pour quitter ce qu'on doit quitter et pour marcher sur ce chemin qui nous mène vers ce qu'on ne connaît pas réellement. Mais tu es le chemin. Et quand nous sommes sur ton chemin, nous sommes en Jésus, nous connaissons le Père, parce que nous te connaissons. Voyez, tu entendras la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. C'est pas qu'on entend des voix, c'est qu'on entend la voix du Seigneur. Et dans Jean chapitre 10, il est dit que les brebis entendent sa voix, ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Est-ce que ce matin on est prêt à suivre ce chemin, à marcher dans cette voie qu'est Jésus-Christ et c'est lui qui nous conduit, n'est-ce pas? Et pas nous qui décidons de nous laisser conduire. Je veux bien, Seigneur, que tu conduises ma vie. Tu me dis où tu veux aller et puis j'irai là où tu veux aller. Je ferai ce que tu veux que je fasse. C'est pas ça du tout. L'apôtre Paul compare l'Église à un corps. Je vous rappelle qu'il y a les liens étroits entre Sarah et l'Église, puisque la Jérusalem céleste, nous est dit dans Galates, c'est représenté par Sarah, n'est-ce pas? La mère de l'enfant de la promesse. Eh bien, le corps, la nouvelle Jérusalem, le corps de Christ, doit fonctionner avec des cellules qui ne savent pas quelle est leur fonction. Vous imaginez dans le corps des cellules qui se disent « Mais en fait, qu'est-ce que je fais là ? Quelle est ma place ? Je dois trouver ma place. » Si vous avez des cellules comme ça, vous finirez mal. D'accord ? C'est ce qui s'est passé un peu avec les cellules dopaminergiques chez moi. D'accord? Elles ont commencé à ne pas fonctionner comme il fallait fonctionner. Et voilà les dégâts que ça fait dans le corps. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons des cellules qui commencent à dire, voilà, je vais faire ceci ou je vais trouver ma place. Il y a combien de gens qui disent, j'ai pas trouvé ma place dans l'église? Et généralement, ils quittent l'église pour trouver leur place ailleurs. Un corps a des cellules qui fonctionnent. L'œil ne dit pas, mais pourquoi je suis œil? Pourquoi je ne suis pas oreille? Pourquoi je suis... Est-ce que je dois trouver ma place? Il fonctionne, c'est tout. Et ça doit être la même chose avec nous. Donc Abraham a quitté ses habitudes, ses traditions, sa culture et ses richesses, probablement, il a perdu parce que il avait probablement un projet d'extension. Il avait probablement un projet d'agrandissement, de prospérité. Et tout ça s'est remis en question. Mais vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui est venu à Jésus. C'était difficile pour lui. Jésus a eu le cœur touché par cet homme. Il a vu la difficulté quand on a accumulé des choses. Et ce n'est peut-être pas des richesses que vous avez accumulées. C'est peut-être une bonne éducation, peut-être une reconnaissance sociale. Et le Seigneur vous dit, voilà, il faut être prêt à tout perdre. On est peut-être bien vu sur notre lieu de travail pour certains. Et le Seigneur nous dit, est-ce que tu es prêt à être persécuté? Parce que le monde va se tourner inévitablement, comme il a été dit pour les huguenots. Le monde tel qu'il évolue va se tourner inévitablement contre les vrais chrétiens. Et les vrais chrétiens ne vont pas mourir en martyrs d'une manière à ce que les gens disent, oh là, c'est terrible, c'est des innocents. Le peuple criera qu'on les supprime, qu'on les extermine, ce sont des parasites. Vous n'aurez pas l'honneur des hommes, mais est-ce qu'on est prêt à avoir l'honneur de Dieu juste en obéissant? Que Dieu nous garde en ça et que Dieu nous aide. J'aimerais que on regarde quelques exemples de concrétisation de ce que j'ai dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 6, là où on trouve que ta volonté soit faite. Le chapitre commence par gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. C'est la même chose que ce qu'on vient de dire. Est-ce que je pratique des œuvres pour pouvoir faire la volonté du Père? C'est Jean, Matthieu chapitre 6, verset 1. Est-ce que je fais ça parce qu'en faisant ça, j'obéis, parce qu'en faisant ça, je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne? Est-ce que je fais ça pour des principes, pour des récompenses personnelles, pour avoir un sentiment de bien-être? Quand tu fais l'aumône au chapitre 2, est-ce que c'est parce que ça te fait du bien, tu as l'impression d'être quelqu'un de généreux, d'être quelqu'un qui donne aux pauvres comme Jésus a demandé, ou est-ce que tu le fais juste parce que ton esprit, l'esprit de Dieu à l'intérieur a touché ton cœur et t'a dit de le faire? Il t'a montré le chemin qu'il était lui-même et comme lui-même donner sa vie pour les autres. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que tu réalises les choses qui plaisent à Dieu? Ou est-ce qu'il y a un autre objectif? Il y a beaucoup de gens qui, pour être des bons chrétiens, pour être bien intérieurement, avoir le sentiment d'être un bon chrétien, ils font des œuvres comme ça. Ils passent du temps avec Dieu, font de l'aumône, font des longues prières. Mais c'est pas ça qui va vous approcher de Dieu. Ce qui nous approche de Dieu, c'est le fait de marcher en Jésus-Christ. Donc ici, il est question de l'aumône et il est question de la prière, n'est-ce pas, au verset 5 aussi, ne soyez pas comme des hypocrites. des gens qui aiment prier pour être vus, ou qui aiment bien dire, voilà, j'ai prié pour toi, c'est normal que Dieu t'ait exaucé, parce qu'il fait ma volonté. Et en fait, c'est ça le cœur. On ne dit pas parce que Dieu fait ma volonté, mais c'est ça l'attitude. Et on est dans l'idolâtrie, on est dans des abominations parfois, où on pense que c'est Dieu qui soumet sa volonté à la nôtre. En priant, ne multipliez, ça c'est le verset 7, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. Et c'est là où il va annoncer le Notre Père, qui est la parole la plus multipliée vainement dans le monde. C'est ça la folie des hommes, n'est-ce pas? Mais Dieu veut par son esprit, et c'est avec ça que je veux terminer, par son esprit, pour que son esprit agisse en nous, il faut mourir. Il faut qu'il y ait un sacrifice. C'est le seul moyen, parce que notre corps par lequel la volonté de Dieu peut se faire, eh bien, c'est notre corps doit être prêt à mourir. Et Romains chapitre 12 commence en disant « Offrez vos corps comme un sacrifice agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce sera juste raisonnable, ce ne sera pas extraordinaire, ce sera raisonnable. Est-ce que ce matin, on est prêt à ce que notre corps meure pour que l'Esprit de Dieu puisse agir au travers de Jésus-Christ en nous? Parce que c'est ça qu'il est question. La volonté de Dieu peut se faire que par Jésus-Christ. Il est le chemin, le seul chemin qui mène au Père. Donc la volonté de Dieu peut se réaliser que par Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'il y a moi. Donc il faut que Jésus-Christ meure ou que moi je meure. Donc Jésus-Christ a accepté de mourir pour que moi je puisse mourir. Et être comme Romains 6 le dit au début du chapitre, nous mourrons avec Christ pour être une même plante, ressuscitée en une même plante avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, disait l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Il a dit, je suis crucifié au monde comme le monde est crucifié à moi. Est-ce qu'on est prêt à ce qu'on meure, toute notre personnalité meure, pour pouvoir ressusciter en Christ et pour pouvoir vivre la Pentecôte, où le Saint-Esprit descend et utilise le corps de manière à ce que les hommes et les femmes commencent à agir selon la volonté de Dieu et commencent à pouvoir pratiquer pour la première fois la volonté de Dieu. Et c'est ça qui parle au monde. Mais comme Jésus a été ce modèle de l'Esprit de Dieu qui agissait dans sa vie, il a accompli la volonté du Père. Il a dit, quand il est rentré dans le monde, il a dit, c'est Hébreux 10 qui nous dit ça, « Tu m'as donné un corps afin que je fasse ta volonté, afin de faire ta volonté. » L'Esprit de Dieu agissait au travers de Jésus, et Jésus n'est plus là sur la terre. Donc l'Esprit de Dieu veut agir au travers des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever et à dire, « Seigneur, je suis prêt maintenant à ce que l'Esprit de Dieu m'amène là où je ne voulais pas aller. » C'est ce que Jésus a dit à Pierre. On t'amènera là où tu ne veux pas. Mais Pierre, transformé par le Saint-Esprit à la Pentecôte, était prêt. Quand Jésus allait être crucifié, il n'était pas prêt, mais il disait, « Je suis prêt, Seigneur, à aller jusqu'à la mort. » Mais il n'était pas prêt. Parce que c'était lui, « Si c'est la mort que tu veux, alors j'irai. Si c'est ta volonté, je ferai ta volonté. » Jésus lui a montré qu'il n'était pas prêt. Mais à la Pentecôte, il n'a pas dit « Je suis prêt », mais il était prêt. Il était prêt à mourir pour Christ. Il était prêt à ce que le Saint-Esprit agisse au travers de son corps, pour qu'il ne sache pas où il va aller, mais il sait que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Le vent, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est née de l'Esprit de Dieu, toute femme qui est née de l'Esprit de Dieu. On ne sait pas où ils vont. Ils ne savent pas eux-mêmes, mais ils savent que l'Esprit de Dieu les conduira. Ce matin, c'est l'occasion pour nous de demander au Seigneur de vraiment agir dans nos vies pour que tout cet ego, ce moi, ce corps, vous savez que le corps, le regard centré sur le corps qui est omniprésent dans notre société actuelle, ça remonte au jardin d'Éden, ça remonte au péché. Quand l'homme et la femme ont péché, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Le diable essaie de tourner vers le corps, le centrer vers le corps, vers notre corps physique. Parce qu'il ne veut pas qu'on regarde vers le corps de Christ, qui est l'Église. Mais Jésus a dit, prenez ce pain, ceci est mon corps. Il a donné son corps, il a donné sa vie pour nous sauver, pour qu'on puisse comprendre et pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Ainsi, à cause de la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit était libéré pour nous, afin qu'on puisse être le canal au travers duquel le Saint-Esprit se manifeste. Comme je dis souvent, si vous allez dans le monde en disant, voilà, à quelqu'un, il faut suivre Jésus, c'est lui la vérité, le chemin et la vie, ils vont dire, oui, mais j'ai entendu d'autres qui disaient que c'était eux qui avaient la vérité, etc. Mais quand ils verront l'Esprit de Dieu agir au travers de vous, par l'amour, par le pardon, par la miséricorde, par le fruit de l'Esprit, la fidélité, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi, eh bien, c'est là où les hommes et les femmes voient la réalité de la volonté de Dieu et de l'amour de Dieu. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? Et on ne doit pas le prendre à la légère, on ne doit pas dire, Seigneur, oui, tu sais, je suis prêt. Parce que ça, c'est le discours de Pierre au moment de la crucifixion de Jésus, ou avant la crucifixion. Mais est-ce qu'on dit, Seigneur, je voudrais être prêt? Et je suis prêt à renoncer à tout ce qui est moi, tout ce qui est ma patrie, tout ce qui est la maison de mon père, tout ce qui est ma situation, tout ce qui est de mon raisonnement théologique. Je suis prêt à renoncer pour que l'Esprit de Dieu agisse à travers de moi, qu'il n'y ait rien de moi qui empêche le Saint-Esprit, que je ne crois pas que c'est moi qui dois faire la volonté de Dieu, mais que c'est la volonté de Dieu qui peut agir au travers de mon corps et que Dieu puisse réaliser sa volonté, qu'il puisse faire sa volonté dans ma vie, dans mon corps, et que ce ne soit pas moi qui fasse la volonté de Dieu dans mon corps. Si c'est le cas, l'Esprit de Dieu va agir dans cette Église. Et je prie que ceux qui ne sont pas décidés encore à suivre Jésus puissent le faire ce matin, en disant, Seigneur, je veux te suivre. Je ne sais pas ce que tu me demandes. Je ne vais pas négocier. Il y a des gens qui viennent, comme je dis souvent, au point de la conversion. Ils disent, mais est-ce que le Seigneur va me demander d'abandonner telle ou telle chose? La réponse est oui. Il va demander de tout abandonner. Ça ne veut pas dire que concrètement, tu devras quitter ton travail, quitter ta famille. Ça veut dire que dans ton cœur, tu dis, Seigneur, tout ça, ça ne m'appartient plus. Tu fais de ma vie ce que tu veux. Tu me mènes là où tu veux. Tu me conduis comme tu veux, de la manière que tu veux. On est toujours dans nos prières en train de dire, Seigneur, fais ceci pour ma vie, fais ceci pour mon travail, fais ceci. Moi-même, je suis comme ça. Mais pourquoi on utilise Dieu comme ça pour qu'il fasse notre volonté? Alors que Dieu n'a choisi que des hommes et des femmes qui sont prêts à faire la volonté de Dieu et pas leur propre volonté. Ce matin, est-ce qu'on est prêt à renoncer? À dire, Seigneur, je n'y arriverai pas, mais je suis prêt. Et je veux renoncer à ma volonté. Et je veux partir là où tu me montreras. Je veux prendre le chemin de Jésus que je ne vois pas, mais je sais qu'il m'amène au Père. Et ce matin, je négocie pas. Est-ce que j'aurai le droit de faire ceci, de faire cela? Est-ce que j'aurai le droit de continuer à fumer? Est-ce que j'aurai le droit, quelqu'un qui a demandé, est-ce que j'aurai le droit d'aller en boîte le samedi soir si je me suis converti? Si quelqu'un dit ça, on peut l'inviter à sortir de la salle, de la pièce, en disant c'est pas la peine. Si vous cherchez un Jésus qui va dire ok, je te laisse aller en boîte ce soir. On passe à côté, on blasphème contre Dieu. Et Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité, qui sont prêts à dire Seigneur, je suis sincère. De toute façon, Dieu le sait. Je suis prêt à m'engager avec toi, mais je n'y arriverai pas. J'ai besoin de ton esprit pour que ton esprit réalise ta volonté dans ma vie. Alors si c'est le cas, que dans vos cœurs, sincèrement, pas seulement maintenant, mais chez vous et dans toute votre vie, vous fassiez cette prière. Et j'aimerais qu'on chante ce chant qui dit « Vers Jésus, lève les yeux si c'est possible. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom puissant n'a rien de comparable sur cette terre, ni là-haut dans les cieux. Et que dans cette prière, ce soit votre corps qui soit livré comme un sacrifice, agréable à Dieu. Ce sera que raisonnable, rien d'extraordinaire, juste la raison de Dieu. Amen. On va se lever pour chanter ce chant comme une prière.